Il est 16h sur Campus FM 100.6.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Une émission de bande dessinée présentée par Patrick Pinchard. Nous allons tourner aujourd'hui la dernière page de l'hommage que nous avons rendu à Hergé pour fêter en grande pompe son 75e anniversaire et comme feu d'artifice pour cette 5e et dernière émission, trois grands tatinophiles vont venir parler de Hergé Superstar ou tout sur le phénomène de starisation dont on l'a entouré. Alors dans l'ordre alphabétique, les trois tatinophiles sont Paul Damblon, Guy de Sissy et Didier Pazamani. Quant aux autres admirateurs d'Hergé qui viendront ajouter leur grain de sel, vous entendrez les voix de Stéphane Steman, Jean-Maurice Dehousse, Luc Beyer, Gérard Vallet, Luc Honoré et Hergé, au micro de Patrick Anspach, Michel Cédric et Stéphane Steman. C'est Michel Campus qui nous accompagne une fois de plus côté technique. En invité aujourd'hui, vous venez d'entendre le chahut en studio, Paul Damblon, Guy de Sissy et Didier Pazamani pour parler de l'ampleur du succès d'Hergé. Ampleur dont un indice est un livre que je tiens entre les mains pour le moment qui s'appelle Trésor de la bande dessinée, qui est un argus de la bande dessinée, qui est la bible des collectionneurs de bande dessinée. Et on affirme que Tintin, que la série des éditions Tintin est un cas unique dans le monde des collections de bande dessinée. Didier est un expert de bande dessinée, alors pour quelle raison est-ce un cas unique ?
Bon, le terme d'expert, je le mettrai un tout petit peu entre guillemets. Disons que c'est pas seulement un cas unique dans la bande dessinée, c'est un cas unique dans l'édition. Et disons que c'est un cas unique dans le graphisme aussi, dans la diffusion au niveau international. Pourquoi Tintin a pris l'ampleur que ça a ? Je crois qu'il y a... Il y a deux raisons à ça. Il y a une raison historique, c'est que c'est la première bande dessinée qui ait vraiment eu en Europe une ampleur commerciale importante. La seconde raison, c'est que c'est la première bande dessinée qui a eu une telle fortune critique. J'entends par fortune critique que c'est peut-être la bande dessinée sur laquelle on a commencé à faire le plus d'exégèse et le plus d'ouvrages. Le premier ouvrage sur Hergé date de 1954. Il a fallu attendre 10 ans pour qu'on trouve d'autres auteurs qui puissent avoir la chance d'avoir un ouvrage sur leur œuvre. Je crois qu'il n'y a vraiment qu'Alain de Saint-Augan et Zikepus qui a pu avoir un autre ouvrage à l'époque. Et puis voilà, l'ouvrage qui avait paru chez Gallimard, qui s'appelle Le Monde de Tintin de Paul Vendrome, a eu un succès assez retentissant. C'est un excellent bouquin. Et je crois qu'on peut presque dire que c'est le départ de toute une espèce de folie qu'il y a eu autour d'Hergé à une certaine époque.
Je suis très sensible aux arguments que Didier développe, mais je crois qu'on peut reprendre les choses encore plus en profondeur. Ce ne sont pas des causes, ce sont déjà des effets, je crois, ces événements que vous venez de citer. Je crois que si l'œuvre d'Hergé n'avait pas eu l'épaisseur, n'avait pas eu la densité qu'elle a, eh bien, cet intérêt que vous venez de définir, fort justement d'ailleurs, n'aurait pas pu avoir lieu. Et je crois que la toute première raison fondamentale est la qualité intrinsèque de l'œuvre d'Hergé, je dirais sa cohérence, son côté d'épaisseur du réel. Je pèse mes mots, je crois que le monde d'Hergé est un monde qui est aussi dense, aussi cohérent, aussi organisé que le monde de Balzac.
Je voudrais bien développer je ne récuse pas tout ce que vous venez de dire sur Hergé, je suis d'accord. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les qualités que l'on trouve dans les séries d'Hergé, les qualités d'Hergé, ce ne sont pas des qualités inhérentes à Hergé. On peut presque faire le même travail, on peut presque constater la même chose avec des auteurs américains comme Milton Caniff, avec des trucs, avec les bandes dessinées d'Alex Raymond, etc. Seulement, ces gens-là n'avaient ni la diffusion, ni l'impact, disons que on pourrait presque dire qu'ils ne collaient pas suffisamment à la mentalité européenne pour avoir l'impact qu'ils avaient. Alors c'est un peu la question de l'œuf, la poule. Qu'est-ce qui est à l'origine du succès d'Hergé? Est-ce que c'est la fortune critique qui est à l'origine du succès d'Hergé ou le succès d'Hergé qui trouve son origine dans la fortune critique?
C'est un cas de causalité circulaire.
Oui, c'est ça. C'est un peu difficile à définir. Je crois que la véritable raison, c'est que Hergé a trouvé une bande dessinée qui collait parfaitement à la mentalité européenne de son époque. Et deuxième raison, c'est le premier auteur à faire des bandes dessinées qui sont adaptées complètement à un mode de publication de l'époque. Hergé fait les premiers albums couleurs en bande dessinée. C'est les premiers, je crois que c'est les... Je ne pense, il n'y a pas d'exemple. Il y a eu des exemples avant-guerre. Mickey paraissait en couleur, Tarzan paraissait en couleur, mais c'était des choses imprimées en typo. Et Hergé publie des albums vraiment parfaits juste au sortir de la guerre en 44 et 45. Et c'est normal à ce moment-là que le succès s'amorce et que les ventes commencent à... Parce qu'il est le seul. Donc il y a une espèce de monopole et qui est indépendant de la qualité même de l'œuvre, mais qui ne pourrait exister, qui n'aurait pu durer si la qualité n'était là.
Sûrement. Vous savez, on ne va pas continuer cette discussion byzantine qui n'intéresse probablement que nous. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Une dernière petite remarque, si je peux, puis on parlera d'autre chose. Je crois que le point de vue est différent selon la génération à laquelle on appartient. Vous avez la chance d'être très jeune. Moi, je suis déjà presque vieux monsieur. Et je me souviens que, pour moi, Hergé, c'est pas les albums en couleur. C'est les albums en noir et blanc que j'ai eu en main quand j'avais moins de 10 ans. Et à cette époque, qu'est-ce qu'il y avait comme bande dessinée? Ben, il y avait Zig et Puce. Et il y avait quoi alors? Il y avait Bécassine qui n'était pas tout à fait les bandes dessinées. Ça, c'était pas pour les garçons, je disais tout de même. J'avoue,
il y avait Nick et Nack aussi.
Oui, il y avait des choses de genre.
Il y avait Bico.
Il y avait Bico, bien entendu. Comme
les pieds nickelés.
Les pieds nickelés, mais c'est pas vraiment des bandes dessinées. Je me souviens d'une... C'est presque scandaleux de le dire dans une émission où on parle de Tintin, mais je me souviens de ma première émotion lors du premier Spirou de Roppwell. Ça devait être en 38, si ma mémoire est bonne. Un an après. Ah, ben, c'est pas mal, hein? Pas mal, je suis fier de moi.
21 avril 38.
Là, j'aurais pas pu aller jusque-là. Eh bien, je me souviens que déjà, en 38, j'avais 7 ans, comme ça vous saurez tout. Et je voyais tout de même bien la différence qu'il y avait entre la qualité du dessin et aussi entre la consistance. Et je reviens toujours à cette notion de cohérence, de consistance, de sentiment du vrai. Tintin, j'avais le sentiment que je le connaissais. J'avais le sentiment que je pouvais tourner le coin et aller rue du Labrador et que je sonnerais, que je verrais Madame Pinson. Enfin, j'ai toujours eu ce sentiment. Tandis que chez Spirou, qui me passionnait par ailleurs, hein, je me souviens très bien de tout ce qui arrivait à Spirou. Mais enfin, c'était pas la même chose. Je n'avais pas ce sentiment de réalité. Et je crois que ça, c'est... Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est une cause absolument fondamentale.
Tout à fait d'accord.
À cette époque, on ne connaissait pratiquement pas les bandes américaines. Quelques-unes dont j'ai une vague mémoire. Je vois les distribuées par Opéra Mundi déjà, n'est-ce pas?
Mandrake,
etc. Puis il y avait un autre qui ressemblait à Spencer Tracy. Je ne sais plus qui était ce personnage, mais il avait la tête de Spencer
Buck
Tracy.
Rogers.
Oui, quelque chose comme ça. Enfin, mais je n'aimais pas. Je suivais pas ça vraiment. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Et je crois que c'est ça, finalement, l'originalité profonde du monde de Tintin.
Donc c'est un cas unique à cause du monde de Tintin.
C'est mon sentiment, monsieur. Ce n'est que mon sentiment.
D'un réalisme, d'une façon de voir, de faire fonctionner un univers qui va être, on peut le dire, la spécificité ultérieurement, qui va être la spécificité de l'école belge. Mm-hmm. Donc toute une école de bande dessinée va utiliser ce réalisme-là et cette manière de faire fonctionner le langage bande dessinée qui est celle-là.
Mm-hmm. Moi, je crois que dans l'idée des auteurs de cet Argus de bande dessinée, c'était surtout un cas unique dans le monde de la collection. Je ne crois pas qu'il y ait un phénomène de collection aussi important que pour une autre série de bande dessinée. Toi, en tant qu'expert, en tant que libraire, surtout...
Oui, c'est, dans le domaine de la collection, c'est justement la fortune critique qui joue son rôle le plus important. Il y a plusieurs genres de collectionneurs. Il y a les gens qui sont, disons, qui ont suffisamment d'intériorité, de sens critique pour n'avoir besoin de personne pour collectionner. En général, ces gens-là sont assez rares. Ils collectionnent des petites choses dans leur coin et n'en parlent pas à tout le monde. Enfin, on peut presque pas les appeler des collectionneurs. Les vrais collectionneurs, ce sont des gens qui acquièrent une collection pour la montrer, pour en être fiers, qui cherchent les pièces rares pour en faire étalage. Et ces gens-là, évidemment, ce sont des gens qui font, soit qui font bouger eux-mêmes les médias autour d'eux, soit qui suivent le courant. Et Hergé, disons, le phénomène Hergé, c'est d'abord un phénomène de médias, c'est d'abord des livres, des articles qui paraissent sur Hergé, et puis ensuite un phénomène collectionneur. En 54, quand paraît Le Monde de Tintin, il n'y a presque pas de collectionneurs d'Hergé, il y en a peut-être un ou deux. Hergé lui-même, d'ailleurs, M. de Sissy pourra confirmer, ne conserve quasi pas ses originaux, il les donne quand il a l'occasion. C'est une chose qui, en principe, personne ne s'occupait à l'époque de ses originaux. C'était une chose complètement secondaire. Et le phénomène collection débute dans les années 60, non pas avec Hergé, mais avec les séries américaines que les amateurs français découvraient et voulaient arriver à constituer complètement, c'est-à-dire qu'ils lisaient Tarzan en français, et ils se rendaient compte que la censure de l'époque avait complètement édulcoré les véritables bandes dessinées américaines, et que non seulement elles étaient édulcorées, mais en plus il manquait des passages complètement essentiel. Et puis ils ont essayé de collectionner ça. Et alors, autour de ce noyau, s'est formé un mouvement de collection. Et un mouvement de collection qui débute à Paris avec Jean Boulet dans les années 60, enfin je ne vais pas en rentrer dans les détails, qui donc s'intéresse d'abord aux bandes dessinées américaines, et c'est grâce à Jean Boulet, qui est un libraire parisien assez génial, qui meurt dans des conditions assez obscures en 68, qu'on va s'intéresser à la bande dessinée belge, qui s'est constituée derrière Hergé à partir des années 50. Et il va vraiment populariser la bande dessinée belge, et en popularisant la bande dessinée belge, il popularise automatiquement le précurseur qui est Hergé, et automatiquement Hergé devient le phare de la collection franco-belge. Et c'est pour ça que c'est un phénomène au sein de la collection de bande dessinée.
On reviendra tantôt sur les différentes pièces à collectionner chez Hergé. Je voudrais d'abord vous faire entendre comme illustration un extrait d'une interview de Stéphane Stemann, qui est un des grands malades de la collection Hergé, un des grands fanatique d'Hergé, parlait justement de ce virus de la collection.
Pour voyager, évidemment, vient du fait qu'il y a eu la passion pour Tintin Milou au départ, petit. Hein. Je pense qu'aucun gosse a été insensible à cette première histoire extraordinaire, à renommée mondiale. De toute façon, on ne le savait pas quand on était petit, à ce petit bonhomme auquel on s'identifie. Enfin, ça, c'était un cliché, tout le monde a dû le dire. Donc, il y avait une passion, il y avait une réelle fête pour ce Tintin Milou quand il y avait un Tintin Milou qui sortait en librairie. C'était absolument inouï. Je le lisais, je le relisais. Chaque dessin était d'un tel réalisme que je me plonge, ça me plongeait dans un abîme de rêve, et cette aventure que je lisais me prenait. Et maintenant je crois comprendre avec le recul pourquoi, parce que c'est un dessin net, précis, c'est un dessin fabuleux sur le plan de la réalité. Alors ça m'a impressionné. Bon, et puis c'est difficile quand on est grand de dire pourquoi on a été impressionné petit, hein. Ça m'a en tout cas monstrueusement impressionné, merveilleusement impressionné. Bon, et puis alors il y a eu l'événement de ces Tintins qui étaient en noir et blanc, et puis quand ils sont sortis en couleur, alors là, comme un imbécile évidemment, si j'avais su, hein, qu'un jour les noirs et blancs deviendraient rares, je me souviens encore où, chez quel libraire et tout, échanger deux noirs et blancs pour un couleur. Et car la couleur, quand Hergé a mis ça en couleur, alors là, ses rêves devenaient en couleur, parce qu'on paraît qu'on rêve toujours en noir et blanc, alors ça devenait encore plus extraordinaire. Et puis, j'ai voulu connaître l'homme, je voulais connaître Hergé très tôt, et à l'époque, Hergé ne recevait pas encore, il recevait beaucoup de lettres, mais disons, il n'y avait pas encore tellement de témoignages, ce n'était pas encore l'homme universel qu'il est devenu. Et je dois dire que quand j'ai voulu le rencontrer, je lui avais écrit, il m'avait envoyé un petit mot disant « oui, je vous recevrai », et c'est un militaire qui est allé sonner à sa porte. J'étais en militaire, alors sa tête, évidemment, il ne s'imaginait pas quand même qu'un militaire pouvait avoir encore une telle passion pour Tintin et Milou. Parce qu'Hergé a été continuellement dépassé par les événements, hein. Encore maintenant, il n'imagine pas comme ça qu'on puisse encore à ce point aimer, à ce point collectionner, à ce point donner des prix pour ce qu'il fait, etc. Parce qu'il est très pur. Et bon, alors, après ça, il y a eu, disons, une période de sommeil, quoi. Je gardais ce que j'avais précieusement, mais j'ignorais un peu les choses. Parce que, avant de devenir collectionneur, il faut tout de même un peu de technique. La collection, c'est du savoir, il faut savoir ce qui existe pour collectionner des choses. Ça prend du temps. Du temps, et puis il faut aller le hasard qui fait qu'on sait ce qui existe. Ce qui fait que pendant tout un temps, ça a dormi. Et puis, je ne sais plus ce qui a réveillé en moi l'esprit du collectionneur, mais ça a été foudroyant. Ça a été le virus. Mais alors, bien plus fabuleux que celui de la varicelle, beaucoup plus rapide encore, ça a été le virus. Et j'ai commencé alors à rechercher systématiquement tout ce qui touchait Hergé. Parce que la plupart des gens, ou des jeunes, ou pas des jeunes, parce que Hergé touche tout le monde, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils s'arrêtent souvent à Tintin et Milou. Moi, ça va beaucoup plus loin. Moi, c'est l'homme Hergé qui m'intéresse. L'homme, parce que je l'aime beaucoup. Et le dessinateur, parce que je trouve qu'avant Tintin et Milou, c'est absolument passionnant de savoir ce qu'il a fait. Ces cahiers. Ça, j'ai lu dans un article qu'il y avait des cahiers qui ne savaient même pas où ils étaient. Vous vous rendez compte, pour un collectionneur, ce que ce serait. D'autant plus que Hergé lui-même a très 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 peu de choses. Moi, je lui ai offert certaines choses qu'il n'avait pas, d'ailleurs. C'est amusant. Enfin, c'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs. Alors, il y a bien entendu tous les dessins. Bon, il y a le petit 20e, évidemment, mais ça, c'est très connu déjà. Mais il y a ce qu'on connaît un peu moins, c'est tous les dessins qu'il a fait pour le 20e littéraire et artistique, où alors là, il a illustré des contes de Tolstoï, des nouvelles de Selma Lagerlöf, enfin, les auteurs les plus insolites par rapport à Hergé. Il a fait des bois pour un tas d'écrivains, et là, il en a fait des centaines et des centaines dans ce 20e littéraire et artistique, qui est vraiment passionnant. Des dessins de guerre, des dessins dans lesquels on ne retrouve absolument pas le Hergé de maintenant, évidemment. Puis alors, il a fait quelques livres, il a fait quelques couvertures de livres pour différents auteurs à l'époque. Très difficile à trouver aussi. Chaque fois que j'en trouve un, c'est la fête. C'est un bouquiniste, quoi, qui me téléphone. Il me dit « Ah, j'ai ça ». L'autre jour, il y en a un qui me téléphone. Il me dit « Ah, j'ai 1000 illustrés par Hergé ». Pardon ?« Ah, j'ai 1000 illustrés par Hergé ». Je dis « Écoutez, monsieur, ça n'existe pas. » Oui, parce que j'ai quand même des listes. J'ai quand même le livre de Sadoul qui est bien fait sur le plan bibliographie. Je vais voir partout. Je dis « Mais ça n'existe pas, ça ». « Ah, mais monsieur, c'est ma musique, ça existe. Écoutez, puisque je l'ai ici. Vous voyez Hergé dessus ?»« Mais oui. » Alors, je me suis précipité. Ça, c'est des trucs où je prends ma voiture tout de suite, hein, quoi que je fasse. Hein. Je quitterai une répétition à la télé pour aller, hein, à ce moment-là. Sachant même qu'on me le gardera, mais il faut que ça aille vite, quoi. Alors, je suis allé voir et j'ai vu effectivement 1000. Hergé lui-même s'en souvenait plus. Qui est un livre illustré par deux dessinateurs, Carlo Kuekers, qui a été l'un de mes professeurs à l'époque, ce qui est marrant comme hasard, et par Hergé. Bon, eh ben, il y a comme ça. Alors, il n'y a pas tellement de livres qu'il a illustrés complètement, mais il y en a tout de même 3 ou 4. dont l'âme de la mère de Pierre d'Arc, qui est une chose que je recherche aussi depuis pas mal d'années. Alors parfois je suis sous la trace de ça et puis ça m'échappe. Je suis malade.
On commençait la découverte de cette faune que constituent les collectionneurs de bandes dessinées, surtout les collectionneurs de Tintin. L'Argus de bandes dessinées a établi une sorte de catalogue des collectionneurs de bandes dessinées, des collectionneurs de Tintin, pardon. Didier, puisque tu as participé à cet Argus, tu peux commenter cette classification ?
Oui, donc ma participation est exclusivement, il faudrait le préciser, exclusivement bibliographique, c'est-à-dire j'ai donné des renseignements bibliographiques sur les différentes éditions de Tintin. Je ne suis absolument pas responsable des commentaires des auteurs de l'Argus, qui sont messieurs Béra, Denis et Mello. Alors, eux font une classification par tranche de collectionneurs, les débutants, les collectionneurs de couleurs, les collections noir et blanc, les collectionneurs d'édition originale. Et puis, ils ajoutent ces collectionneurs, genre Stéphane Stéman, qu'ils affublent du sobriquet de fou. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette classification. Disons que c'est une classification qui arrange bien les auteurs d'Argus, dans la mesure où ça décrit relativement bien la façon dont on peut collectionner Tintin selon ce qu'on a dans sa bourse, en fait. Selon qu'on soit riche ou pas très riche. Si on n'est pas très riche, eh bien, d'abord, on s'arrange pour acheter des albums neufs tels qu'on les trouve dans les librairies à un prix tout à fait normal. Ça, c'est quand on n'est pas riche du tout. Quand on est un peu plus collectionneur, on commence à acheter, les éditions les moins chères possibles. Et les moins chères possibles, ce sont les couleurs des années 60, 70, qu'on affecte de collectionner parce qu'ils sont sur un plus beau papier, parce qu'ils ont une meilleure reliure. Puis il y a ce parfum du livre ancien. Si on est encore un peu plus riche, on tâchera d'avoir les premières éditions couleurs, qui sont les toutes premières éditions qui sortent juste après la guerre, et d'ailleurs même déjà pendant la guerre, puisque c'est à partir de 1943. Et si on est encore plus riche, à ce moment-là, on commence vraiment à collectionner les noirs et blancs. Alors là, les noirs et blancs, ça c'est la joie, ce sont des beaux ouvrages sur beaux gros papiers, ça sent encore meilleur puisque c'est plus vieux. et puis alors, si vraiment on est très riche, alors à ce moment-là, on s'arrange pour acheter les éditions originales en noir et blanc, mais là il faut vraiment être très riche. Et alors, quand on est à la fois riche et féru de collection, comme Stéphane Stéman, je ne sais pas s'il est très riche, mais en attendant, il est riche pour ça. À ce moment-là, on collectionne non seulement Tintin et les éditions originales, mais alors tout ce qui tourne autour de Tintin. Alors, il l'a dit tout à l'heure, c'est les petits 20e, c'est des raretés, c'est vraiment très très difficile. On paye des fortunes pour ça, jusqu'à 2000, 3000 francs fascicule. Vous vous rendez compte, fascicule, il y en a un paquet, il y a 11 années de petits 20e. Puis le supplément du 20e siècle artistique et littéraire, parce que le petit 20e paraissait le jeudi et le 20e siècle artistique et littéraire paraissait le dimanche, pour lequel Hergé a fait l'illustration, puis toutes les illustrations qu'Hergé a faites. Et puis si on est encore plus fou, c'est un peu comme moi, à ce moment-là on collectionne les disques Hergé, les objets Hergé, les cartes postales, les originaux d'Hergé. Alors là il faut être richissime parce que ça vaut des fortunes.
Les cartes de vœux, tout quoi.
Disons que si on était très riche, on acheterait par exemple portrait d'Hergé par Andy Warhol. Là c'est pour les gens vraiment très riches, mais je vous assure qu'à ce stade là c'est plus riche qu'il faut être, c'est milliardaire, enfin, c'est même plus de la richesse, ça.
Et je crois qu'il y a une autre manière plus abordable d'ailleurs de marquer son fanatisme pour le monde et pour le mythe Hergé, le mythe Tintin. Et il y a un exemple que j'ai sous la main. Figurez-vous que j'ai un ami notaire qui s'est amusé à composer, à écrire l'acte de vente du château de Moulinsart. Mais attention, c'est un acte qui a l'air tout à fait authentique, qui est fait d'ailleurs sur du papier timbré, je l'ai apporté ici, qui est relié avec la petite cordelière tricolore, comme le veut l'usage. Et c'est extrêmement amusant parce que tout le texte est apparemment à une première lecture totalement normale, en fait, un texte notarié avec, dont on se langage un peu abscon que nous connaissons et qui semble avoir la vie dure d'ailleurs. Mais une fois qu'on regarde attentivement, eh bien, c'est plein de clins d'yeux. C'est plein de clins d'yeux qui, ou de clins d'œil, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, qui je crois amuserait beaucoup Hergé lui-même, notamment tout le travail d'arpentage a été fait par un géomètre expert qui s'appelle évidemment Monsieur Théo Dolite. Alors, tout a été annoté par un avoué dont on ne connaît que l'initiale, il doit s'appeler Charles ou
il n'a pas osé l'avouer,
n'est-ce pas? Mais alors son nom, oui, mais il s'appelle C, son initiale du prénom est C, et il sait donc mettre C Questre, ce qui pour un avoué est tout à fait normal. On sait que le château de Moulinsart est une vaste propriété qui est Sidrève Georges Rémy numéro 1. Alors, tout le monde sait que Georges Rémy, c'est le vrai nom d'Hergé. Rue de la Station, route de Berouette, etc. Enfin, je pourrais vous lire tout le document qui est absolument admirable et qui reconstitue toute une histoire absolument fictive, d'ailleurs, de l'histoire de ce château. Et je crois que ça, c'est très exactement l'esprit Hergé que j'ai essayé de faire émerger tout à l'heure. C'est un monde fictif, mais qui est aussi réel et qui est même peut-être plus réel que la réalité quotidienne.
Mmh. Et qui très souvent rejoint la réalité quotidienne. Il y a eu des anecdotes du capitaine Haddock, toi qui connais tout ça à fond, qu'on a fait des recherches et qu'on a trouvé finalement qu'il existait un capitaine Haddock réellement ancêtre, etc. Quoi. Mais c'est une coïncidence extraordinaire. Il invente des choses et puis elles sont réelles après.
C'est là qu'on se rend compte en réalité ce que c'est la collection d'Hergé, la collection de Tintin. Ce sont des amateurs. Dans le vrai sens du terme, c'est d'aimer.
Au sens étymologique. Un amateur, c'est celui qui aime. C'est pas qui aime follement, d'ailleurs.
C'est ça.
Bien sûr.
Il est une belle pièce pour le musée, ça.
Je le vois à son regard intéressé.
Ce serait une très belle pièce encore que pour l'apprécier, il faudrait pouvoir la compulser. Dans un musée, c'est plutôt difficile, je crois.
Ah non, parce que je crois qu'il faut faire, il faut faire des photographies.
Je vous suggère d'en faire un petit opuscule dans lequel le notaire en question expliquerait en détail toutes les vicissitudes de l'affaire.
Excellente suggestion et je crois qu'on pourrait.
Je suis éditeur, ça peut s'arranger.
Ah, je vous prends au mot, cher ami.
Je vous prends le mot.
Vous aimez les risques.
Oh, oui. Ça va se discuter en antenne pour le moment. Je vous propose d'écouter à nouveau Stéphane Stemann qui va établir un panorama des objets Tintin à collectionner.